Bonjour Robin Corneille.
Bonjour Franceline.
Avec notre invité ce matin, nous allons décrypter la crise boursière chinoise.
Oui, bonjour Pierre Defraigne.
Bonjour.
Vous êtes économiste, on vous connaît pour votre expertise en matière de politique européenne, mais vous êtes aussi un grand connaisseur de la Chine, directeur de la fondation Madariaga, qui entre autres travaille sur les relations entre l'Europe et la Chine. Le mois dernier, alors que les projecteurs de l'actualité étaient braqués sur la Grèce, la bourse de Shanghai s'effondrait. 2000 milliards d'euros de capitalisation se sont envolés, c'est absolument colossal. L'indice phare de Shanghai a perdu un tiers de sa valeur en un mois, en même une dizaine de jours. C'est 12 fois le PIB de la Grèce. L'autre bourse de Chine continentale, celle de Shenzhen, s'est aussi écroulée en un mois. Gros mouvement de panique donc, et une situation qui reste instable. Cette semaine, on a encore assisté lundi à une chute de 8,5% à Shanghai. Ça se stabilise un peu ce matin, mais ça reste quand même orienté à la baisse. Pierre Defraigne, qu'est-ce qui se passe en Chine et pourquoi est-ce que massivement les investisseurs se mettent à vendre leurs actions?
Mais il ne se passe pas en Chine autre chose que ce qui s'est passé en Amérique, en Europe. Chaque fois que la création monétaire est trop abondante, crée des liquidités qui aboutissent immanquablement à former des bulles boursières ou immobilières. Et à un moment donné, ces bulles doivent se dégonfler. Et c'est ce qui se passe en Chine. Et donc, ce n'est pas un cas particulier. C'est une formulation qui est liée aussi à la transformation de la Chine. La Chine a toujours été un pays où l'épargne était extrêmement abondante. Elle était en fait imposée par le système aux ménages avec des rémunérations très faibles des carnets d'épargne. Et maintenant, on essaie de canaliser cette épargne vers la bourse. Et donc, on est au rudiment, je dirais, de l'apprentissage d'un investissement en valeur à risque, c'est-à-dire en actions, par les bourses. Et ces bourses chinoises, Shanghai ou Shenzhen, sont aujourd'hui alimentées par des flux financiers, notamment d'origine extérieure, avec trop peu d'offres de la part des entreprises. Il y a un goulot d'étranglement en Chine qui fait que les entreprises qui veulent aller en bourse pour obtenir des financements en capitaux propres font la file d'attente à cause de réglementations très strictes pour leur donner le brevet d'accès, de sorte que les valeurs existantes bénéficient de cet afflux de liquidités et tout d'un coup, leur valeur est tout à fait excessive et atteint en effet des sommets nouveaux pour la Chine, mais je le répète, que nous avons connu à plusieurs reprises ces derniers temps de notre côté.
Quand vous dites qu'on a canalisé l'épargne vers la bourse, vous voulez dire que les autorités ont fortement encouragé les petits investisseurs, les particuliers, monsieur et madame tout le monde, à investir leur argent en bourse, parfois même en empruntant pour pouvoir acheter des actions.
Voilà. Alors là, vous venez de livrer la clé du problème. C'est qu'en réalité, si les gens envoient leur épargne en bourse pour aider l'économie à se diversifier, et notamment au secteur privé, et en particulier les entreprises moyennes, tout cela fait sens, est une excellente chose pour l'économie, ça augmente sa productivité, en même temps que ça augmente la rémunération pour les ménages, et donc ça corrige une des dysfonctions de l'économie chinoise, qui est l'inégalité de la distribution des revenus. Mais, du moment qu'on permet aux gens d'emprunter pour faire des opérations financières et notamment de vendre des actions qu'on n'a pas, eh bien, on arrive à des débordements que nous avons connus, je le répète, parce que c'est un phénomène assez classique dans l'histoire de nos bourses, y compris l'histoire la plus récente. Mais là, en Chine, le pouvoir a été pris de court. Je pense que c'est ça la vraie difficulté que nous rencontrons en Chine. C'est la réaction tout à fait, à mon sens, excessive du pouvoir qui, n'ayant pas l'habitude de ces accidents boursiers, a surréagi en mobilisant une série d'instruments que nous qualifierons de très interventionnistes, Nous faisons aussi des interventions, mais elles sont généralement plus indirectes.
Donc empêcher, par exemple, certains de vendre leurs actions, ceux qui possèdent plus de 5% dans une entreprise, pour l'instant ne peuvent pas vendre. Ce sont des mesures énergiques, mais qui, du coup, vous nous dites, ont créé la panique, quoi. On s'est dit, si le gouvernement prend ces mesures-là, c'est que c'est grave.
Je dirais plutôt que c'est le gouvernement qui a paniqué.
Ouais.
À dire vrai, il est légitime qu'à un moment donné, une bourse qui a monté trop corrige ses excès et qu'il y ait des pertes qui sont enregistrées par les opérateurs. C'est une pratique assez saine. C'est la nature même du capital à risque. Vous pouvez gagner beaucoup, vous pouvez perdre beaucoup. Ici, la question est beaucoup plus compliquée. Le gouvernement ayant poussé les ménages à transformer leur épargne en actions, s'est senti comptable, je dirais, de leur réussite. Et tout d'un coup, s'est interrogé sur la réaction que monsieur tout le monde pouvait avoir en Chine du moment que son épargne perdait de sa valeur. Alors ça, c'est un apprentissage que les Chinois doivent faire et qu'ils vont faire. C'est un peuple qui apprend vite. Mais il y a eu, je pense, surréaction de la part des autorités. Et ça a des conséquences, je crois, à plus long terme pour l'emploi. Portée et le rythme des réformes engagées par l'équipe Xi Jinping, Li Keqiang.
Et effectivement, une des particularités, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de petits investisseurs de la classe moyenne qui se trouvent affectés par cette crise aujourd'hui. Il faut quand même dire aussi que si elle chute, c'est parce qu'elle a énormément progressé. Donc ceux qui ont investi il y a quelques années ont certainement récupéré leur mise. Mais donc là, on parle bien d'un problème boursier. Est-ce que c'est le reflet néanmoins de problèmes dans l'économie réelle? Est-ce que ça veut dire que la Chine, économiquement, se porte pas très bien?
Mais évidemment, il est aussi clair que la Chine n'échappe pas au marasme qui est en train de s'installer et, hélas, de s'aggraver au plan mondial. Regardez les prévisions faites par le FMI ou le CDE. Nous allons graduellement vers une croissance mondiale qui se ralentit et qui est foncièrement la conséquence des excès que nous avons vécus avec la crise financière de 2007-2008 qui est loin d'avoir sorti tous ses effets. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'endettement dans le monde continue à croître. Alors, l'endettement en soi n'est pas une mauvaise chose, puisque le crédit est la condition de l'investissement, à condition précisément que vous investissiez. Mais si ces liquidités que nous avons lâchées sur le marché, le Japon depuis 2000, les États-Unis depuis la crise de 2008 et nous autres, depuis cette année avec la Banque Centrale Européenne, nous avons pratiqué ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire que nos banques centrales, pour baisser les taux, et notamment les taux à long terme, ont racheté massivement des valeurs, principalement des fonds d'État, sur le marché et ainsi créer des liquidités qui sont maintenant une masse flottante qui pèse sur l'économie mondiale et qui nourrissent un endettement malsain. Donc dans l'endettement, je fais bien la part de ce qui est utile pour la croissance économique réelle et ce qui est dangereux parce que ça crée de l'instabilité. Et j'ajoute aussi des inégalités. Parce que ce que nous venons de voir notamment aux États-Unis et maintenant en Europe, c'est que ces politiques financières très laxistes des banques centrales ont pour effet de faire monter les bourses. Et qui profite de la montée des bourses? Ben, ceux qui détiennent des actions. C'est-à-dire que ça aggrave encore les inégalités de revenus et de patrimoine dans nos économies. Et je crois que la Chine n'est pas, de ce point de vue-là, un cas particulier. Elle s'inscrit de plus en plus dans l'économie mondiale. Elle en a bénéficié plus que n'importe qui, puisqu'elle a attiré chez elle des investissements créateurs d'emplois. Ça a soutenu sa croissance. Maintenant, cette demande de l'extérieur diminue. La Chine doit compter davantage sur sa demande interne. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on pousse les ménages chinois à épargner mieux, c'est-à-dire à utiliser mieux leur épargne pour relever leur niveau de revenus et ainsi soutenir la demande interne. Mais cette transition d'une économie tournée vers l'exportation et l'investissement direct étranger à une économie qui se nourrit de sa propre demande et qui demande en fait une redistribution de la richesse à l'intérieur de la Chine est une entreprise de très grande ampleur, va prendre beaucoup de temps et personnellement je suis optimiste sur le fait que la Chine, qui a connu bien d'autres avatars ces 30 dernières années, va aussi passer le cap. Mais si l'ensemble de la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe et la Chine ne se mettent pas autour d'une table aujourd'hui pour régler le problème du surendettement et stimuler la demande mondiale, nous allons rencontrer de sérieuses difficultés.
Alors, on comprend qu'un pays qui est fortement tourné et fortement dépendant de ses exportations est un peu pénalisé par un contexte économique mondial où la demande ralentit, toute l'économie ralentit, donc forcément ça impacte la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise boursière, nous, en Europe, on risque de subir un impact? Est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Je ne crois pas. À dire vrai, certains économistes font des projections sur l'impact de la chute de Shanghai et Shenzhen sur la bourse américaine. Il y aura évidemment un impact, mais il sera tout à fait limité. Nous ne sommes pas du tout devant un problème systémique. Je crois que ça, c'est la particularité de la Chine, c'est que relativement à nos pays, la bourse chinoise est encore très petite. La capitalisation
n'est pas très ouverte aux investisseurs étrangers.
Voilà. Et elle commence à s'ouvrir. C'est ça la difficulté. Elle est dans cette transition. C'est une petite bourse qui croît très vite, trop vite. Mais on ne peut pas dire qu'elle a une taille telle que, par exemple, elle aura l'impact de la crise de Wall Street de 2008, dont nous ne sommes toujours pas remis en Europe.
Très brièvement, est-ce que on peut parler d'une correction ou bien vous pensez que la situation économique chinoise risque de se dégrader encore?
J'ai confiance dans le fait que la Chine a un talent exceptionnel d'apprendre de ses erreurs et beaucoup plus vite que nous. Je crois que c'est une chose que tous les observateurs ici soulignent, c'est le haut degré de sophistication des régulateurs chinois qui... assez curieusement, alors que tout ça est très neuf dans leur pays, ont une aptitude assez grande à limiter un problème et à trouver une solution. Maintenant, nul n'est prophète sur l'avenir, c'est connu, et donc le risque dont j'ai parlé, qui est un risque mondial, subsiste.
Merci beaucoup pour votre analyse, Pierre Defraigne.